Bon, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette conférence de philosophie et management organisée en partenariat avec la Ligue des Optimistes. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Halévy. Alors, Marc Halévy est non seulement physicien, il a été élève de Prigogine, mais aussi philosophe des religions. Excusez-moi tout d'abord pour le son, ça va être réglé dans quelques instants, je l'espère. Donc, comme je le disais, Marc est philosophe des religions. Il intervient aussi énormément en entreprise, en tant qu'expert, pour, je vais dire, aider les entreprises en toute une série de problématiques dont il nous parlera peut-être pendant son exposé. Il a écrit de nombreux livres, en particulier sur la prospective. En fait, il intervient en entreprise souvent au niveau des problématiques de prospective. Il nous dira aussi un mot là-dessus. Donc, il a écrit plusieurs livres qui tournent autour de la noétique. La noétique, c'est, je dirais, la science, et corrige-moi Marc, de la noosphère, donc de cette sphère qui va au-delà de la sphère physique et qui est celle de l'esprit, des connaissances. Voilà, donc il va nous en parler au travers de son exposé, mais il va se concentrer aujourd'hui en particulier sur le Tao et le management. Quelle relation peut-il y avoir entre le Tao et, je vais dire, la gestion? Il va nous partager ses réflexions sur ce sujet. Alors je voudrais avant tout préciser que cette conférence s'inscrit en marge d'un cycle que nous menons avec philosophie et management tout au long de l'année. Cette année, le cycle de séminaires et de conférences que nous avons organisé, toujours en partenariat avec la Ligue des Optimistes, mais également avec Tetra, a porté et continue de porter sur le management de demain. Quel management pour demain? On se rend bien compte, entre autres avec la crise, qu'il y a besoin de repenser certains éléments du management. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire tout au long de cette année. Alors, pour votre information, la semaine prochaine, le 21, le samedi matin, nous aurons un séminaire sur, je dirais, l'aspect cognitif du capitalisme et en particulier de penser les nouveaux business models dans une économie sans rareté. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est effectivement toutes les problématiques liées au développement incroyable d'Internet, etc., ou toute une série de problématiques ou de fondements du capitalisme actuel basés sur la rareté. Vont devoir être repensés. Et nous aurons un dernier séminaire cette année qui portera sur la responsabilité et la solidarité entre les différents acteurs économiques. Voilà. L'année prochaine, nous entamerons un nouveau cycle lié, lui, axé vraiment sur la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, pour ceux qui n'ont pas de place, il y a encore des sièges normalement derrière, si ça ne vous dérange pas. Alors, dernier, deux point de détail avant de passer la parole à Marc. Marc nous a apporté toute une série de livres qu'il a écrits, qui sont en vente à l'entrée si vous le désirez. Et par ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas réglé leur entrée au départ, vous pouvez le faire auprès de Luc tout à l'heure lorsqu'on prendra un petit verre. Voilà, tout de suite je passe la parole à Marc. Merci beaucoup.
Non, tu vas pas utiliser ça? Ok. Je crois que j'ai une voix qui porte assez, non? Vous m'entendez bien, les nouveaux arrivants, là, oui? Et là-bas aussi, malgré le fait que la trajectoire ne soit pas très directe. Bon, ben donc, j'ai, m'a-t-on dit, une petite heure pour vous parler du taoïsme et de son rapport éventuel avec le management. La question qui se pose, qui m'est toujours posée, c'est qu'est-ce qu'un physicien de la complexité vient foutre dans le management ou dans le taoïsme? Donc la réponse est extrêmement simple. Quand je travaillais chez Prigogine, un jour, il m'a donné un bouquin et en me disant « Tiens, tu me lis, tu me dis ce qu'il y a dedans, si c'est intéressant. Tu as tout le temps, si c'est demain matin, ça va. » Et donc le bouquin en question, ça s'appelait « Le Tao de la physique » de Fridtjof Capra, qui est paru en 77, je crois, de mémoire. Et ça a été pour moi une révélation parce qu'effectivement, je me rendais compte en tant que physicien théoricien qu'il y avait là-bas en Chine une tradition qui véhiculait des intuitions extraordinairement riches que la physique commençait seulement à redécouvrir. Et on voyait cette convergence forte entre les grands mystiques de l'humanité et les recherches de physique théorique. C'était assez surprenant, hein, surtout quand en général on est physicien théoricien, on est plutôt un cerveau gauche assez lourd. Et là, découvrir l'autre versant de la pensée était pour moi une révélation extraordinaire. Donc là-dessus, j'ai commencé à m'intéresser très très fortement à tout ce qui était spiritualité, à tout ce qui était l'histoire des religions, la philosophie des religions, ce qui explique pourquoi, en parallèle avec ce monde de la physique de la complexité, j'ai développé une bonne connaissance d'un certain nombre de petites choses concernant certaines traditions spirituelles. Alors, le lien avec le management, maintenant, ça veut dire que comme je suis physicien de la complexité et que le monde humain est un monde de complexité, est un monde complexe, et que dans le monde complexe de l'humain, il y a l'économie et donc les entreprises qui sont des mondes hyper complexes, c'était intéressant de faire le pont entre la physique de la complexité, des processus complexes, et ces processus complexes que sont les entreprises et l'économie en général, d'où le mariage des deux, qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, je crois que vous voyez plus clair sur ce lien étrange entre philosophie des religions, physique de la complexité et management des entreprises. Donc voilà, comme ça, vous connaissez tout le secret. Maintenant, on va parler de choses sérieuses. Alors, donc, Tao et management, alors, je ne sais pas du tout ce que vous connaissez ou ce que vous ne connaissez pas à propos du taoïsme. Donc, je vais peut-être essayer, au fil de ce petit exposé, de poser un certain nombre de principes, en commençant par vous mettre ça dans l'histoire, dans le temps, poser un certain nombre de principes et voir chaque fois s'il y a ou pas quelque chose qui puisse être une source d'inspiration pour les managers d'aujourd'hui et de demain, qui, et ça a été rappelé, sont en train de réinventer complètement leur métier, évidemment. Cette réinvention, elle est à la fois extrêmement inquiétante, parce que on est devant un point d'interrogation, et quand il n'y a pas de point d'exclamation un peu plus loin, c'est inquiétant. Mais par contre, tout est à réinventer, l'entreprise est à réinventer, et je pense que là, il y a quelque chose qui est extrêmement stimulant. Alors, taoïsme donc. Le taoïsme, je vais vous proposer tout de suite une petite mise au point. Le taoïsme n'existe pas. C'est un de ces mots que les Occidentaux qui découvrent des continents qu'ils ne connaissent pas ont l'art d'inventer pour mettre une étiquette sur une bouteille dont ils ne connaissent absolument pas le contenant. Donc on a dit taoïsme, comme quand les Anglais étaient en Inde, ils ont inventé le mot hindouisme. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un tout petit peu les traditions philosophiques indiennes, derrière ce mot hindouisme, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de courants complètement différents les uns des autres, mais par simplicité, on a collé une étiquette qui s'appelle hindouisme. Taoïsme, c'est un peu la même chose. Les Occidentaux, surtout les Jésuites, parce que ce sont les Jésuites qui ont découvert la philosophie occidentale avec beaucoup de mépris d'ailleurs, les Jésuites ont considéré très vite qu'il y avait en Chine deux grandes traditions. Et pour faire simple, on a appelé ça taoïsme et confucianisme. Et effectivement, on peut comprendre pourquoi cette distinction a été faite, même si elle n'est pas toujours extrêmement pertinente. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'être précis. Je ne vais pas vous parler de Confucius, je vais vous parler de taoïsme. Et dans le taoïsme, je vais vous parler de manière très précise de ce qu'on appelle le taoxia. Alors, qu'est-ce que c'est taoxia? Taoxia, c'est le taoïsme philosophique, qui après a dégénéré sous toute une série de sous-produits taoïstes plus ou moins alchimiques, plus ou moins magiques, plus ou moins toutes sortes de choses. Cet autre courant s'appelle le Tao Xiao. Donc moi, je vais vous parler du taoïsme philosophique. Et si je vous dis les noms clés, vous allez tout de suite voir de qui je vais parler. Le fondateur de ce mouvement, c'est Lao Tzu. Tout de suite derrière lui, il y a son continuateur, il s'appelle Chuang Tzu. Et puis derrière, un illustre, pas inconnu, mais un illustre invisible, il s'appelle Li Tzu, dont on ne connaît rien, et qui est peut-être même Chuang Tzu lui-même. Donc voilà, ça c'est le fondement. On est dans quelle époque là? On est entre le 6e et le 4e siècle avant l'ère chrétienne. Et donc on est là dans ce moment magique, ce moment axial, disait Carlos Jaspers, en disant tout s'est passé au 6e siècle avant l'ère chrétienne. Bouddha en Inde, et le jainisme, qu'on oublie trop souvent, les Upanishads dans l'hindouisme, les présocratiques en Europe, les grands prophètes d'Israël, et Lao Tzu en Chine. Tout ça, c'est le 6e siècle. joue du Zoroastre du côté de nos amis perses. Donc voilà, Lao Tzu est un bonhomme bizarre, un bonhomme curieux. On ne connaît à peu près rien de sa vie, tout est légendaire. On croit savoir qu'il a été bibliothécaire, voire archiviste, voire même à un niveau ministériel plus élevé, dans un royaume qui s'appelle le royaume de Chou, donc dans la Chine ancienne, à l'époque d'un grand marasme politique. Les royaumes se combattaient entre eux, et donc il y avait là énormément de méli-mélo dans cette époque tourmentée. Eh bien, Lao Tzu est là-dedans, quelque part. Il est là-dedans, quelque part. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait. On sait en tout cas une chose, c'est qu'il jouissait d'une grande réputation. De quoi, on ne sait pas, mais de grande réputation. Voilà. Et la légende dit deux choses sur lui. Deux choses qui sont amusantes à rappeler. La première, et je parle je pense surtout aux mamans qui sont assises ici, c'est qu'on dit que la maman de Lao Tzu n'a pu accoucher de lui qu'à son 81e anniversaire à lui. Ce qui quand même pose des problèmes physiologiques non négligeables. Qu'il est né donc vieillard, avec des longs cheveux, une longue barbe blanche et des grandes oreilles des sages. On représente toujours en Chine les sages avec de très grandes oreilles. Et ça, c'est la première légende. Pourquoi 81 ans ? Eh bien, parce que son livre, parce qu'il n'en a écrit qu'un, s'appelle Tao Te Ching, le classique du Tao et de sa potentialité, de sa vertu. Et le Tao Te Ching contient 81 chapitres. Qui sont tous très très petits. C'est une demi-page, voire trois lignes. Les plus grands font une page et demie dans notre écriture, hein, nous ne guère plus. Donc 81 chapitres, il avait 81 ans. Donc un an de grossesse par chapitre, en gros, si vous faites le rapport arithmétique entre les deux. Alors, deuxième légende concernant Lao Tzu, c'est que Lao Tzu, à un moment donné, il a atteint un niveau de sagesse absolue à ses yeux. Il est complètement écœuré de ce qui se passe dans son monde à lui, dans le monde chinois. Et il décide de partir, et de partir se perdre dans la montagne. Et il part, assis sur un buffle, qui dans toute iconographie chinoise est un symbole de très grande sagesse. Donc il part assis sur un buffle, et au moment où il va quitter la Chine, arrive près de la marée de Chine, une passe, et le gardien de la passe lui dit d'arrêter. Et là au-dessus, il dit « Pourquoi tu veux m'arrêter ?» Je dis « Je ne veux pas t'arrêter, je ne veux pas que tu t'en ailles avec tout ce que tu as dans le cœur et dans la tête. » Et donc, le gardien de la passe lui a demandé, l'a supplié, de bien vouloir écrire l'essentiel de sa sagesse dans un petit livre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Tao Te Ching, que Lao Tzu n'a pas écrit dans la réalité historique, ou plus exactement, qu'il a probablement écrit quelques petits chapitres et qui ont ensuite été retravaillés, redécoupés, complétés, commentés, etc., etc. Il n'empêche, ce livre, il est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas encore lu, courez l'acheter vite. C'est un livre fort, un des livres phares de l'humanité, le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching, Tao, le Tao, on va dire tout de suite ce que c'est. Te, ça veut dire la vertu, le potentiel. Et King, c'est le classique, c'est le grand classique, le livre fondateur. Bon, alors, d'où vient cette tradition ? Cette tradition. Est-ce que Lao Tzu est quelqu'un qui a pondu le Taoïne comme ça, avec sa brouteau, lui tout seul comme un grand ? La réponse est oui et non. Oui, parce que les concepts fondamentaux dont je vous parlerai tout à l'heure sont vraiment de lui. Avant ça, il n'y a aucune trace dans la littérature ancienne chinoise de ces concepts fondamentaux. Donc, il est véritablement le père. Par contre, il n'a pas tout créé ex nihilo. Clairement, avant lui, il y avait un autre livre fameux qui s'appelle le Yi Qing, qui veut dire très très factuellement le classique des mutations, de la transformation, et qui est lui un livre tout à fait extraordinaire, qui date très probablement dans ses premières versions de vers 1500 avant l'ère chrétienne, et qui était un traité oraculaire. Ça servait exclusivement à essayer de deviner l'avenir, essentiellement en faisant craquer des carapaces de tortues au feu, et en fonction des dessins des craquelures, eh bien, l'oracle attitré pouvait ou pas dire ce qui allait bien ou mal se passer, et toute cette tradition oraculaire, elle continue aujourd'hui de manière extrêmement vivace. Donc ça n'a pas changé. Le Yi Qing est un livre illisible. Il faut vraiment le reprendre, essayer de comprendre dans quelle logique il se place.
Alors pourquoi je vous parle du Yiking et à quelle relation avec Lao Tzu? Ben tout simplement parce que, et là, même si vous n'êtes pas des grands spécialistes de la Chine, vous avez tous entendu parler du Yin et du Yang. Les deux forces fondamentales qui, quelque part, engendrent toute la dialectique de la dynamique cosmique. Et le Yin et le Yang, dont je parlerai tout à l'heure, eh bien, ils sont les fondamentaux de ce Yiking qui a inspiré Lao Tzu. Mais Lao Tzu a mis quelque chose en plus. Il n'a pas pu accepter, philosophiquement parlant, là je suis très précis, il n'a pas pu accepter le dualisme ontologique du yin et du yang, et il a voulu faire la synthèse, et donc dépasser ce dualisme pour retrouver le monisme, donc l'idée que tout est un, et ce tout, c'est le Tao. Et donc ça, on va en parler tout à l'heure. Et voilà donc en quoi Lao Tzu est quelque part un dépassement, une transcendance, un transcendement du dualisme du Yiking qui lui était antérieur. Lao Tzu est un philosophe. Un philosophe, non pas au sens rationaliste qu'on lui a donné depuis Aristote, mais un philosophe qui est un philosophe de l'abstrait. C'est quelqu'un qui gère des concepts de très très haute, de très très haute abstraction, qui rend d'ailleurs son texte tout à fait obscur. D'ailleurs, ceux parmi vous qui sont familiers avec les présocratiques savent qu'on disait d'Héraclite, Héraclite l'obscur, Héraclite d'Éphèse était considéré comme le philosophe obscur, parce qu'il avait une concision d'écriture telle qu'il fallait vraiment, en trois mots, pour en faire exégèse, en sortir 300 pages. Eh bien, on n'est pas très loin de ça avec le Tao Te Ching, qui est une pensée extrêmement compacte, extrêmement ramassée, et qu'il faut beaucoup de temps pour ouvrir et lui permettre à ce moment-là de s'épanouir. Mais c'est d'une richesse tout à fait exceptionnelle. Bon, voilà. Philosophe abstrait, ça c'est Lao Tzu. Son continuateur Chuang Tzu, lui, c'est pas ça du tout. C'est un autre profil. C'est presque l'inverse. C'est un mystique délirant. Mais d'une subtilité qui ne parle jamais de raisonnement, ça n'intéresse pas. Il ne veut pas raisonner. Ce qu'il veut, c'est raconter des histoires. Mais quand il les raconte, par contre, ce sont des histoires qui sont extrêmement percutantes. En quelques lignes, il raconte une histoire. Le ministre du roi machin vient le voir alors qu'il est en train de pêcher dans sa rivière. Et il lui dit Chuang Tzu, le roi voudrait que tu deviennes son ministre. Et Chuang Tzu répond une seule phrase, il dit « Crois-tu vraiment que je serais plus heureux ministre que pêcheur ?» Alors l'émissaire ne sait que répondre, « Tu vois ?» Problème terminé. Donc vous voyez, on est dans un tout autre registre, mais évidemment ce sont les mêmes concepts, évidemment ce sont les mêmes fondamentaux qui sont véhiculés par ces deux plumes-là. Et puis vient le troisième larron de la grande triade, c'est Lice dont on ne sait rien. On ne sait pas quand il a vécu, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Certains soupçonnent Chuang Tzu d'avoir choisi un pseudonyme et d'avoir écrit lui-même la partie qu'on appelle aujourd'hui Lice. Très curieusement, en tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que Lice essaye de faire la synthèse des deux attitudes existentielles. Celle du philosophe abstrait, qui était Lao Tzu, et celle du mystique goguenard et moqueur qui était Chuang Tzu. Et on retrouve ces deux veines dans Li Tzu, avec quelque part un langage de haute métaphysique qui est étonnant dans la Chine. Les Chinois sont des gens concrets. Donc avoir un langage de haute métaphysique est a priori curieux dans cette tradition. Il n'empêche, le Li Tzu est tout à fait merveilleux, lui aussi. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire du Tao Xia? Quels sont les fondements philosophiques de ce regard sur le monde? Ben d'abord, trois adjectifs quant à la philosophie. C'est une philosophie naturaliste. Ça veut dire quoi? Techniquement, ça veut dire que pour les taoïstes, il n'y a rien de surnaturel. Tout est naturel. La nature est le monde, est le tout, est le un. L'équation la plus simple. Deuxième fondement de la philosophie taoïste, c'est le monisme. Le monisme, c'est quoi? C'est le refus obstiné, absolu, de toute forme de dualisme. Tout ce qui est un. Tout est dans tout et réciproquement. Tout est effet et cause de tout.
tout est relié à tout, tout est interdépendant à tout, et tout cela s'appelle la nature. Et ça vous rappelle probablement un peu Spinoza. Le Deus sive natura de Spinoza, hein, Dieu autrement dit la nature, ben voilà. C'est le refus de la dualité, Dieu n'est pas à l'extérieur du monde, Dieu et le monde c'est la même chose. C'est un panthéisme, c'est un pananthéisme, prenez le mot qui vous agrée. Et donc on est là dans cette tradition intéressante et qui me permet peut-être de vous parler de quelque chose qui est une étymologie d'un mot français, mais qui colle magnifiquement bien au naturalisme taoïste, à savoir ceci. Quelle est l'étymologie du mot natura ? Enfin, de la nature vient du latin natura. Et natura, c'est quoi en latin ? Ben, c'est un participe futur. Non ? Il y a des latinistes distingués ici ? Hein ? C'est un participe futur du verbe nascior qui veut dire naître. Autrement dit, natura, c'est ce qui est en train de naître. Eh bien ça, c'est typiquement la manière dont les taoïstes voient la nature, le monde, l'univers tel qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui est une émergence, quelque chose qui est un jaillissement. C'est pas du tout une métaphysique de l'être à la Platon. C'est tout le contraire. C'est ce mon deuxième point, c'est que la métaphysique taoïste est une métaphysique du devenir contre la métaphysique de l'être. La métaphysique de l'être dit ceci, l'essentiel ne change pas. L'essentiel est immuable et tout ce qui est changement est accident. Et il nous faut, nous, philosophes occidentaux, nous débarrasser des accidents, les dépasser, afin de pouvoir atteindre à l'immuable de l'être. Et on a toutes les philosophies occidentales qui se déclinent à partir de là, et ça commence avec Platon, et ça continue jusqu'à Heidegger et autres, pendant ces 2 millénaires et demi. Eh bien, dès l'origine, le taoïsme prend le contre-pied, en disant, mais vous vous trompez, il n'y a rien d'immuable. C'est l'immuable qui est l'accident. Le fondement, c'est le changement. Tout est changement. Et on retrouve là un écho d'Héraclite d'Éphèse qui disait dans son grec ancien, Pentarei, tout coule. Il n'y a rien qui est arrêté. Il n'y a rien d'immuable. Grande querelle sur la notion du sujet. Existe-t-il un sujet ? Êtes-vous des sujets ? Y a-t-il une identité à un sujet ? Ça, c'est la philosophie de l'être. La philosophie de devenir, c'est un mépris total du sujet. Il n'y a pas de sujet. Vous n'êtes que changement. Donc, vous voyez, il y a deux regards là qui sont complètement différents sur le monde, sur la cosmologie, sur la cosmogonie et sur la place que l'homme y tient. Donc, il y a aussi une anthropologie dans le taoïsme qui se décline sous forme d'une éthique. Hein? Alors, faisons bien différent entre éthique et morale. La morale est normative, l'éthique, c'est une disposition d'esprit, c'est une recherche du comment vivre ensemble. Hein? L'éthique taoïste, elle se base sur un certain nombre de principes qui sont très, très intéressants et qui vont vous choquer. Qui vont vous choquer, disais-je, parce que l'éthique taoïste est d'abord libertaire. Par définition, un taoïste est totalement, définitivement allergique à une forme de pouvoir que ce soit. Le pouvoir, c'est non. Le seul pouvoir qui puisse exister, c'est le pouvoir du Tao qui vit en moi et qui dirige ma vie et me permet de la construire. Tous les autres pouvoirs sont des usurpations. Point. Donc on sent bien là quelque chose qui, moi, me fait bien plaisir. Hein, on a bien une attitude fondamentalement anarchiste. Et donc, le deuxième trait intéressant du taoïsme, et là aussi ça m'arrange bien, c'est que l'éthique taoïste est asociale. Fondamentalement asociale. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, c'est le contre-pied de Platon, mais en toute logique, il suffit de décliner pour comprendre. C'est le contre-pied de Platon. Platon disait « l'homme est un animal social ». Lao Tzu dit « l'homme est un animal asocial ». On supporte les autres, mais fondamentalement, ils nous emmerdent. Donc il y a quelque chose là qui est peut-être choquant dans notre bien-pensée occidentale. L'idéal de vie du taoïste, c'est ermite dans la montagne. Très très clairement. Moins je vois les hommes, mieux je me porte.
Hein, donc on est bien là dans un contre-pied total par rapport à cette construction sociale ou sociétale qui a fait finalement toute l'essence de la politique dans la pensée occidentale. Eh bien, chez les taoïstes chinois, c'est l'inverse. Et c'était leur grand point de bagarre avec les confucianistes, qui eux étaient exactement à l'opposé, en disant, attention, l'ordre de l'homme doit primer sur l'ordre de la nature, et au-dessus de l'ordre de l'homme, il y a l'empereur. Et que tout ce qui concerne l'empereur doit être formaté, doit être prévu, doit être protocolarisé. Il faut une obéissance absolue et définitive. Le taoïste, quand il entend ça, il est mort de rire. Hein? Donc, pas du tout de la même chose. Inutile de vous dire que les détenteurs du pouvoir dans la Chine, dans presque toute l'histoire de la Chine, étaient plutôt confucéens et nettement moins taoïstes. Ça se comprend. On a le fond de commerce qu'on peut. Hein? Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est quelque chose qui, encore une fois, c'est l'antithèse de Platon. Que dit Platon ? Platon dit il y a deux mondes. Il y a le monde des idées, qui est parfait, immuable, superbe, splendide, pur. Et puis il y a le monde dans lequel nous vivons, nous. C'est un monde tout à fait impur, tout à fait inintéressant, tout à fait vil. Et ces deux mondes ne sont pas de la même nature, ces deux mondes sont séparés. Et il faut que nous, hommes, conscients de notre lien avec le monde des idées, nous soyons capables d'imprimer dans cette nature vile de sang et de... de sang et de larmes, j'ai une chance plus que vous, hein. Il faut absolument que nous, hommes, nous soyons forts au point de pouvoir imposer nos idées contre l'avilissement et la vilénie de la nature, de ce monde-ci. On est bien dans le combat, on est bien dans l'éthique du contre. Moi, homme civilisateur, je dois dominer la nature et la dompter et la mettre à ma botte. Lao Tzu, c'est l'inverse. Lao Tzu, c'est, mais non, vous n'avez rien compris, c'est la nature qui détient la vérité. Et c'est l'ordre naturel qu'il faut respecter. Et une vie d'homme n'a de sens que dans la mesure où elle se développe en harmonie parfaite avec cet ordre naturel qui est à découvrir. Cessez de rêver à vos idéaux débiles. Ce sont des fruits de votre imagination, et votre imagination est infiniment moins riche que la nature. Alors, épargnez-nous vos idéaux. Regardez la nature, essayez de voir qui elle est, comment elle fonctionne. Et essayez de vous mettre au diapason de cette nature, plutôt que de bêtement vouloir la dominer et la contraindre et la plier à vos caprices humains débiles. On est bien là dans un tout autre regard sur le monde, sur l'éthique, sur la nature, sur le rapport à l'autre, etc. Donc vous avez compris qu'il y a donc là, et j'en arrive finalement à mon point, c'est qu'il y a là quelque chose de tout à fait intéressant pour les managers d'aujourd'hui qui doivent réinventer leur monde, qui doivent réinventer leur métier. Parce qu'on a là l'antithèse absolue de la pensée idéaliste classique, platonicienne, qui a finalement empoisonné tout l'Occident pendant 2500 ans. Donc, on a peut-être là l'opportunité d'aller s'inspirer à des choses qui sont un tout petit peu différentes. Alors, allons-y maintenant. Essayons de voir un peu quels sont les principes cosmologiques de cette vision du monde et voyons ce qu'on peut en faire en termes de management. Alors, première chose fondamentale, c'est la notion de Tao. Vous l'avez compris, c'est le premier mot, Tao. Tao, qui en fait en chinois, signifie beaucoup de choses. Mais il y a toujours une idée de mouvement, il y a toujours une idée d'un courant qui coule, il y a toujours une idée d'une dynamique en cours, quelque chose qui est en marche, un flux, un flot. Donc, le Tao, première idée, est fondatrice. Cette idée dit ceci, le cosmos est une dynamique en marche. Tout est mouvement, rien n'est permanent, rien n'est immuable, tout est impermanence. Il y a comme fondamental, des fondamentaux, le changement en tant que tel. Et que, mutatis mutandis, c'est presque à contrario, ce qui semble immuable, c'est l'accident, c'est la bizarrerie, ou c'est notre myopie. La montagne change-t-elle, dit Lao Tzu. Le disciple dit, ben non, regarde, ça fait deux jours que je la regarde, elle n'a pas bougé.
Il dit, bah, attends, on se revoit dans 4000 ans, et puis tu me diras. Hein? Et évidemment, Lao Tzu a raison. Évidemment, il a raison. C'est notre myopie qui nous fait croire que les choses ne changent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles changent trop lentement. Mais même les choses qui changent lentement changent. Elles se transforment. Et vous voyez ce mot transformation qui rappelle encore ce vieux Yi Qing, hein, le livre des mutations. Oui, c'est fondamental. Tout est mutation, tout est transformation perpétuelle. Tout se change en tout, tout le temps. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de logique identitaire. Je n'ouvre pas ce détail, mais imaginez que nous prenions la logique aristotélicienne et qu'on la confronte à un taoïste. Le taoïste, il est mort de rire. Hein, quand on dit, par exemple, ce qui est vrai est vrai, il rit. Mais attends, c'est quoi ? Ce qui est vrai, toujours alors, toujours. Ce qui est vrai est vrai. Ah bon ? Oui, mais ce qui est vrai, c'est ne peut pas être faux. Pourquoi pas ? Oui, mais pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Pourquoi quelque chose pourrait-il pas être en même temps vrai et faux ? Donc, vous voyez, on est dans une toute autre logique, un tout autre regard que les mathématiciens redécouvrent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes plongés, et là je vous parle vraiment en connaissance de cause, dans une redécouverte des logiques non aristotéliciennes, où effectivement le principe du tiers exclu est de plus en plus exclu. Donc voilà, on est là dans une confrontation de deux cultures, de deux regards qui sont complètement étrangers l'un à l'autre. Donc je reviens à mon Tao. Ben, le Tao, c'est ce cosmos qui est un processus en marche. Tout en émane. Tout est impermanence. Tout est flux. Le mouvement est père et mère de toute chose. Qu'est-ce qu'on en fait dans le management ? Ben, l'idée est intéressante. Et puisque tout est changement, ça veut dire que quand nous parlons de notre entreprise, est-ce que nous parlons d'un objet figé, ou est-ce que nous parlons d'un processus ? Et si nous parlons d'un processus, l'entreprise devient un organisme vivant. Et si on parle d'un organisme vivant, il n'est plus découpable en petits morceaux. Vous êtes des organismes vivants, prêtez-moi un scalpel et un volontaire, et je montre que vous n'êtes pas découpable. Ben, l'entreprise, c'est la même chose. C'est un organisme vivant, c'est un processus vivant, et le prendre comme tel change tout. On ne parle plus de structure, mais de mouvement. On ne parle plus d'organisation, mais de mutation. Donc, clairement, il y a là quelque chose à laquelle il faut être attentif, c'est que si on veut appliquer le principe du Tao à l'entreprise, le manager doit être le stimulant du mouvement et de l'impermanence. Il doit apporter du chaos dans son entreprise. Si l'entreprise se fige, elle meurt. Transformons. Il faut donc, responsabilité numéro un du manager, injecter tout le temps, obstinément, compulsivement, il faut injecter du mouvement, il faut injecter du changement. C'est le changement qui fait l'entreprise et non pas la stabilité. Il faut toujours être dans l'instabilité. On ne marche pas si on n'accepte pas le déséquilibre. Parce que marcher, c'est être perpétuellement déséquilibré. Alors, deuxième notion intéressante, c'est ce qui s'appelle le Tai-Yi. Alors, Tai, ça veut dire grand, Yi, ça veut dire unité. Hein? La grande unité, c'est donc le principe de la non-dualité dont je vous parlais tout à l'heure. Tout est un. Il n'y a pas de dualité. Toutes les dualités sont des mensonges. Est-ce qu'on est bien dans ce cadre-là, nous, ici, en Occident ? Regardons les 2000 ans de pensée qui sont derrière vous. On a passé notre vie à essayer de tout mettre sous forme de dualisme. Le vrai, le faux, le beau, le laid, le sacré, le profane, le bon, le bien, le mal. On est, dans notre formatage mental, complètement dualisé. Homme-femme, cerveau droit, cerveau gauche. Nous raisonnons tout le temps en termes de dualité. Et là, Lao Tzu nous dit, ben non, c'est un mythe, c'est un leurre, vous vous trompez, tout est un, et tout est dans tout et réciproquement. Donc ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que l'entreprise ne peut pas s'organiser à partir de dualité. Elle doit être conçue comme une multicomplexité, bien au contraire. Et il ne faut pas opposer les choses, mais au contraire, favoriser l'émergence de contradictions, parce que c'est pas à la contradiction que les choses évoluent. encore une fois, le choix du mouvement par rapport au choix de la stabilité. Le choix du déséquilibre plutôt que le choix de l'équilibre. Si j'étais en face de jeunes managers et si je devais expliquer cela avec une petite périphrase, je dirais ceci. Mettez une équipe dans une salle de réunion et posez-leur un problème un peu difficile. Vous allez voir ce qui va se passer. Après un quart d'heure, 20 minutes, eh bien vous allez avoir trois types de gens dans la salle. Ceux qui s'en foutent, hein, il y en a toujours. Et puis il y a ceux qui s'en foutent pas. Et ceux qui s'en foutent pas, eh bien très rapidement ils vont se positionner, les uns partisans du noir, les autres partisans du blanc. Et puis ils vont se chamailler, ils vont essayer de se convaincre l'un l'autre. Puis ça marche pas évidemment, parce qu'il y a autant de bonnes raisons de penser noir que de penser blanc. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans un processus de négociation. Et ils vont inventer un gris. Pas tout à fait noir, pas tout à fait blanc. Un gris qui va donc être insatisfaisant pour tout le monde et qui va être frustrant pour tout le monde aussi. Eh bien, dans cette situation-là, et là je pousse un peu le trait pour mettre en avant un manager taoïste, pour autant que ça ait un sens, qui viendrait dire en disant « Arrêtez avec votre blanc et votre noir, inventez-moi les couleurs. Passez au niveau supérieur. La réalité est infiniment plus riche que toute votre dualité débile. C'est votre cerveau qui voit des dualités. La réalité, elle, ne connaît pas ces dualités. Assumez donc la complexité du monde telle qu'elle est, vraiment. Ne refusez pas les couleurs. Ne les réduisez pas du blanc du noir. Au contraire, stimulez les couleurs. Réinventez les couleurs tout le temps. Et méfiez-vous comme de la peste de toutes les dualisations qui vous empoisonnent la vie. Autre notion, c'est le yin et le yang. On a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Je crois que quand on parle du yin et du yang en Occident, on a toujours tendance à mettre en avant l'aspect duel du yin et du yang. Hein, on dit très souvent, le yin c'est féminin, le yang c'est masculin. Et on est parti, comme dans notre bonne habitude, dans les dualités, où on distingue le blanc et le noir. Et d'ailleurs, quand vous représentez le taï, vous savez, le rond avec les deux larmes, là, eh bien en Europe, on les représente souvent en noir et blanc. Alors que dans la tradition chinoise, c'est bleu et rouge. Mais peu importe. Hein, on est vraiment, nous, habitués à vouloir absolument dualiser. Donc le yin yang, c'est forcément une dualité. Non, c'est une bipolarité, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous prenez un aimant, il y a un pôle nord et un pôle sud. Mais ils sont inséparables. Si vous coupez un aimant en deux, ben il va y avoir deux pôles nord et deux pôles sud. Mais vous ne pouvez pas séparer le pôle nord et le pôle sud. C'est comme ça. Eh bien, le yin et yang, c'est la même chose. Et l'étymologie est intéressante. Qu'est-ce que c'est le yin et qu'est-ce que c'est le yang en chinois archaïque? Eh bien, le yin, c'est le bac d'une montagne. C'est le côté à l'ombre. Et le yang, c'est l'adret, donc le côté au soleil. Et si vous y réfléchissez 3 secondes, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de plus impermanent que l'adrain du bac. Parce que la montagne, elle ne bouge pas, mais le soleil, il bouge, lui. Et donc, à chaque instant, ce qui était adrain devient du bac et vice-versa. Et on est bien là dans la logique du, non pas dualisme, mais bipolaire, du yin et du yang. D'ailleurs, en chinois, on ne dit jamais le yin et le yang, on dit yin-yang. Ils sont ensemble. On ne sait pas yin et yang, non, c'est yin-yang. Sont ensemble. Et donc, voilà une belle leçon pour nos managers, me semble-t-il. C'est que leur approche complètement duelle, et c'est une discussion que j'ai eue avec des amis philosophes chinois qui étaient tout à fait passionnants, cette discussion, c'est ceci. Vous, disent-ils, vous, Européens, vous, dans vos entreprises, vous êtes perpétuellement dans la dualité et tout votre système de management est fondé sur 2 notions. La notion d'objectif et la notion de résultat. On fixe des objectifs, on atteint des résultats et, en général, tous les mois, on regarde si les objectifs et les résultats correspondent. Et la réponse, c'est non, ça ne correspond pas. Pourquoi ça ne correspond pas ? Parce que le monde, surtout en situation complexe comme il est maintenant, en situation de grande turbulence comme il est maintenant, le monde est largement imprévisible.
dont disent les Chinois, vous, manager, qui êtes perpétuellement dans la notion d'objectif et de résultat, vous êtes complètement et totalement dans le fantasme. Vous êtes dans la projection. Vous n'êtes pas dans le réel, vous êtes dans l'imaginaire. Parce que vos objectifs, c'est une pure projection mentale. Ça n'existe pas, ces objectifs-là.
Voilà, alors on se retourne vers eux, on dit, c'est bien gentil votre truc. Hein? Mais vous faites avancer comment l'entreprise alors? Et ils disent, ah, mais nous, on vous propose une autre regard où on va transformer cette dualité objectif-résultat en quelque chose qui est une bipolarité dans le réel du présent. En français, ça veut dire quoi, monsieur? Eh bien, ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'ils mettent l'un face à l'autre la notion d'intention et la notion de situation. Quelle est mon intention, hic et nunc, ici et maintenant? Quelle est ma situation, hic et nunc, ici et maintenant? Et toute situation nourrit l'intention, toute intention oriente la situation. Et je ne fais plus aucun fantasme. Je vous rappelle quand même que les Chinois sont les meilleurs commerçants du monde depuis toujours. Même en Israël, on dit qu'il faut 2 Juifs pour faire 1 Libanais et 3 Libanais pour faire 1 Chinois. Donc, et on sait de quoi on parle. Hein. Bon, donc, Yin Yang, c'est en fait une manière de dire tout bouge tout le temps, il faut que vous soyez aux aguets, il faut que vous soyez vigilant, il faut que vous soyez prêt à saisir dans chaque situation tout ce qui peut nourrir votre intention. Et pour ça, il faut en avoir une d'intention. Et pour ça, il faut qu'elle soit claire. Alors ça nous renvoie à nos managers, à des questions de fond, qui se posent aujourd'hui avec une acuité terrible. Quelle est la finalité de l'entreprise? Ça sert à quoi l'entreprise? Ah! En général, on n'a pas de réponse. Et quand on en a une, c'est la plus grande bêtise que j'ai jamais entendue, c'est, Martin, vous savez bien, M. Lévy, hein, la finalité de l'entreprise, c'est de faire du profit, voyons. Bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le profit est absolument indispensable à l'entreprise, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que le profit, c'est le carburant qui permet à l'entreprise de se déployer, c'est évident aussi. Mais vous n'êtes pas comme moi. Quand vous allez faire le plein de votre voiture à la pompe, est-ce que c'est l'essence qui décide où est la voiture? Donc la finalité de l'entreprise, ce n'est pas le profit. Le profit, c'est la conséquence et le moyen du développement de l'entreprise. Mais ce n'est pas sa finalité. Alors où est cette finalité? Ça, c'est une question que les taoïstes vous posent tout le temps. C'est quoi votre intention? C'est quoi le but du jeu? Et pas seulement au niveau de l'entreprise, maintenant, élevons le débat un tout petit peu, c'est une question de grande, grande actualité. L'économie, pourquoi faire? Quelle est la finalité de l'économie? Est-elle sa propre finalité ou est-elle au service d'une finalité qui la dépasse? Débat aujourd'hui virulent entre les économistes dinosaures et les économistes en émergence. Et donc, il y a là quelque chose qui est incontournable à notre époque, de grande turbulence. Et ce n'est pas un hasard. Turbulence égale mouvement, mouvement égale impermanence, impermanence égale les questions chinoises plutôt que les questions traditionnelles de la métaphysique de l'être héritée de Platon. Alors, vous avez compris donc que être un manager taoïste, encore une fois, si ça peut avoir un sens, c'est être dans l'impermanence, c'est être dans le mouvement, c'est d'être dans la vie, c'est d'être dans le vivant, c'est d'être dans l'instant, c'est d'être dans le hic et nunc, dans le ici et maintenant. Arrêtez les fantasmes, arrêtez vos idéalisations. La seule chose qui soit réelle, c'est ici et maintenant. La seule chose donc qui soit préhensible, c'est ici et maintenant. La seule chose sur laquelle on puisse réellement construire quoi que ce soit, c'est ici et maintenant. Donc il y a là quelque chose qui nous gêne beaucoup, nous. Parce que nous, on est tout le temps, soit dans la nostalgie de la mémoire, soit dans l'utopie du futur, c'est-à-dire dans l'irréel. Et on est tellement ancré dans ces projections passées ou futures que nous avons un art consommé de passer à côté de la réalité de notre vie qui est ici et maintenant. Ben, c'est vrai pour nous en tant qu'individus, mais c'est encore beaucoup plus vrai pour nos entreprises, qui sont tellement obsédées
par leurs objectifs qu'elles en arrivent à ne pas voir ce qui se passe dans la réalité. Et je peux là vous assurer que ma pratique professionnelle, c'est bien celle-là. C'est des entreprises qui sont absolument incapables de voir la réalité du monde dans lequel ils fonctionnent. C'est un espèce de déni de réalité. C'est une complaisance vis-à-vis de l'idéal, de l'idéalité ou de l'idéalisme, appelez ça comme vous voulez, mais dans tous les cas de figure, c'est du fantasme. Et donc, vous voyez derrière le message du taoïsme un rappel, voire même un appel à un très grand pragmatisme. Arrêtez de déconner. Regardez le réel tel qu'il est là. C'est ça, et rien d'autre qui existe. Le reste, c'est du fantasme. Alors, il me reste encore 10 minutes.
Oui.
Je vous ennuie pas trop?
Non.
Ah, parce que je peux continuer jusqu'à demain, si vous voulez. J'ai pas de soucis. Passons maintenant un tout petit peu à des principes un peu moins cosmologiques, un peu moins abstraits, et regardons un peu ce que ça donne dans la vie, dans le vécu, en termes de comportement. Alors, la première notion qui moi, m'est très très chère, et ça fait... ça fait 35 ans que je travaille dessus. En chinois, ça se dit wu wei. Alors, wu, c'est la particule négative, n'est-ce pas ? Et wei, c'est agir. On traduit ça souvent par non-agir, le ne pas agir. Et on dit attends. On parle d'impermanence, on parle de management, on parle d'entreprise, et on parle de non-agir. Ça n'a pas de sens. Par définition, un homme d'entreprise, c'est un homme d'action. Comment peut-on agir sans agir ? Et pourtant, la formule chinoise complète, c'est wei wu wei. C'est agir, le non-agir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que la philosophie taoïste s'inscrit non pas contre le monde, mais avec et dans le monde. Vous vous souvenez de ça ? Que le Tao, c'est un fleuve qui coule, c'est un flux, c'est un flot. Eh bien, la logique veut que lequel est le bon comportement par rapport à ce flot qui coule, c'est de s'inscrire dans le flot qui coule. Nager avec le courant, vous irez loin. Nager contre le courant, vous allez crever, épuisé. Du bon sens paysan. Mais ça va plus loin que ça, évidemment. Donc ça veut dire ceci, et ça c'est crucial. Écoutez bien cette petite métaphore, parce qu'elle est fondamentale. Certains parmi vous, je pense, ont probablement dû faire de la voile un jour ou l'autre, et pourront témoigner que je ne dis pas trop de bêtises. Quand on est sur un voilier, et qu'on se dit, en homme viril, je vais dominer la mer, et je vais lui imposer mon désir, et je vais me battre contre les marées, contre les lames, contre les vents. En général, ce qui arrive, après un quart d'heure, c'est un dématage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et ce que je vais vous dire maintenant est crucial, c'est que la liberté passe d'abord par l'allégeance. Ça veut dire que si l'on veut être un marin sur la mer, la première chose à faire, c'est d'accepter que la mer est définitivement, infiniment plus puissante, plus forte que n'importe quel bonhomme sur son n'importe quel de bateau. Et que si l'on veut aller où l'on veut aller, il faut d'abord faire allégeance. Et puis comme par hasard, les forces sont là disponibles, il n'y a plus qu'à les utiliser. Il y a des vents, bravo, je vais régler ma voile. Il y a des courants, bravo, je vais sortir ma dérive. Et donc, il y a là quelque chose qui est une leçon fabuleuse, qui rejette, qui combat tout cet énorme orgueil occidental qui nous forge encore, et qui nous déforge plutôt le monde encore aujourd'hui, où le chinois dit « Faites allégeance aux forces de la nature et vous pourrez alors les utiliser comme bon vous semble. » Ça vous rappelle pas quelque chose ? Ça vous rappelle pas les arts martiaux ? Ceux d'entre vous qui ont fait peut-être à un moment donné de leur vie un peu d'art martial se souviennent peut-être que en aïkido, en judo, en jujitsu, en karaté, en kendo aussi, bien sûr, on dit ceci, on dit, tu ne dois pas vaincre ton adversaire. Utilise sa force contre lui. C'est pas la même chose. Il t'attaque, ben, tant mieux, il te donne de l'énergie. Donc tu détournes l'énergie, et c'est lui qui vole par terre. Eh bien, on est bien là dans quelque chose qui est à l'opposé. C'est l'antithèse de toute cette démarche occidentale de vainqueur. de cette démarche occidentale de conquête, de domination. Là, c'est les forces sont là. Apprends à les utiliser. Tu te fatigueras beaucoup moins et tu iras beaucoup plus vite. Donc, autrement dit, rappelez-vous cette phrase, la liberté passe par l'allégeance. Il faut d'abord faire allégeance aux puissances naturelles pour pouvoir, après, faire exactement ce qu'on veut, comme on veut et où on veut. Donc, le non-agir, c'est ça. C'est ne te bats pas contre la nature, utilise-la. Utilise-la bien et de manière durable, évidemment. Deuxième idée. Oui, donc là, il y a des idées importantes au niveau managérial. Première idée, vous savez probablement qu'il y a des traités d'art militaire et d'art de la guerre qui ont été écrits. Hein, tout le monde connaît le Sun Tzu, il y en a d'autres, les 360 stratagèmes et autres bouquins. Il y a une constante qui va vous étonner, c'est qu'on dit finalement que le meilleur général gagne la guerre, bien sûr. Mais sans livrer une seule bataille. Ça, c'est un bon général. Il gagne la guerre, mais sans livrer une seule bataille. Ben, faisons la projection de ça sur l'art du management. Le manager, c'est quelqu'un, et je fais une distinction là qui me paraît importante, le manager, c'est quelqu'un qui fait autorité et qui n'a donc pas besoin d'user de son pouvoir. Il fait autorité et ça suffit. Il n'a pas besoin d'utiliser de son pouvoir. Il est reconnu comme étant celui qui apportera la bonne solution au problème parce qu'il fait autorité. Et qu'il ait ou pas une carte de visite d'un mètre carré ou de 2 cm², ça ne changera rien à l'affaire. On est bien là dans quelque chose qui est d'une toute autre nature que ces hiérarchies de pouvoir dont nous avons été habitués. Deuxième notion intéressante sur les principes anthropologiques, c'est la notion de détachement. Alors là encore, l'idée est relativement simple. Elle dit en une phrase. Attache-toi à la démarche, pas au résultat. Si la démarche est bonne, le résultat sera bon. Donc ne t'obsède pas à prévoir le résultat. Obsède-toi à faire chaque pas parfaitement et adéquatement. Peut-être certains parmi vous sont-ils des artistes du dimanche, des peintres du dimanche. Tous ceux qui ont une activité artistique le savent bien. Ce qui est extraordinaire dans l'activité artistique, c'est la démarche de création, c'est pas l'œuvre finie. Une fois que l'œuvre finie, il n'y a plus aucun intérêt. Mais ce qui est transformateur de soi, ce qui est constructeur de soi, c'est la démarche créative elle-même. Le taoïsme ne dit pas autre chose. Et la vie, c'est une œuvre d'art. Il n'y a pas de résultat au bout. En tout cas, on sait tous que le résultat en question n'est pas très montrable. Donc, le but du jeu, c'est de bien prendre conscience que c'est la démarche qui fonde la valeur et non pas le résultat qui fonde la valeur. Elle expliquait ça à un comptable. Hein? Donc là encore, il y a quelque chose d'étonnant pour nous occidentaux, c'est d'entendre dire, et je répète cette phrase qui est importante, si la démarche est parfaite, le résultat sera parfait. T'occupe pas du résultat, occupe-toi de ta démarche. Fais ce qu'il y a à faire, ici et maintenant, de manière parfaite et adéquate. Et ça, vous en avez de belles illustrations, je crois, pour ceux qui s'intéressent ou qui se sont intéressés au zen. Hein, je pense à deux choses bien particulières. C'est le kyudo, donc l'art du tir à l'arc, ou la cérémonie du thé. Mais avant de vous parler de ça, je dois faire un petit détour. On dit souvent, et à tort, que le zen, c'est le bouddhisme, le zen. Je crois que c'est une grave erreur. En fait, le zen japonais est arrivé au Japon via la Corée partant de Chine, où il portait un autre nom, c'était l'école Chang. Et l'école Chang est née comment ? Elle est née de la rencontre entre la tradition taoïste et un moine indien, qui s'appelait Bodhidharma, peu importe, qui est arrivé avec sa science et sa philosophie bouddhique et qui a quelque part ensemencé la pensée taoïste avec une seule chose fondamentale qui en sanskrit se dit dhyana et qui a donné chan en chinois et qui a donné zen en japonais. Et ça veut dire quoi dhyana en sanskrit? Ça veut dire la méditation. Donc fondamentalement, l'école zen, ou les écoles zen, Soto et Rinzai, sont fondamentalement du taoïsme japonisé avec de la méditation bouddhiste. Mais ce n'est pas du bouddhisme. Donc, j'en reviens à mon point, c'est que ces arts japonais, liés au zen, ont cultivé jusqu'à un point extraordinaire la notion de perfection du geste et d'adéquation du geste. Avez-vous déjà assisté à une cérémonie du thé? Quelqu'un?
Non.
Bon. Ben, pour ceux qui ont vu ça, je crois qu'ils vont confirmer ce que je dis. Chaque geste est un geste pur, simple, parfait et adéquat. Il n'y a pas de bricolage. Il n'y a pas de faux mouvement, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de grand mouvement. Tous les mouvements sont minimalistes. Tout est minimaliste, parfait, adéquat. Et si on faisait la même chose dans nos entreprises, on fait tout parfaitement, adéquatement, simplement et de manière minimaliste. C'est-à-dire qu'on consomme le moins de ressources possible, de toutes les ressources, pas seulement matérielles. Qu'on fait des choses parfaitement du premier coup. Et qu'on les fait adéquatement par rapport à l'intention qui est la nôtre. Imaginez ça. Ce serait pas mal quand même. Hein? Et donc ça implique le détachement par rapport au résultat, disais-je. Donc ça veut dire que toutes nos méthodes de gestion par les objectifs devraient peut-être être remises un tout petit peu à l'ordre du jour. Surtout dans un monde où plus rien n'est prévisible. Donc, quand plus rien n'est prévisible, la seule chose qu'on puisse prévoir, c'est que tout va arriver de ce qu'on n'aura pas attendu. Et donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est être parfait ici et maintenant, dans ce qui se passe de réel maintenant. Et donc, on a bien là quelque chose qui est intéressant à aller mettre en évidence. On continue avec quelques vertus, et puis j'en resterai là. C'est la notion de minimalisme, précisément. Ou bien, si vous voulez, les vertus majeures, cardinales du taoïste, sont trois. La simplicité, la frugalité, l'élégance. Trois mots qui aujourd'hui, à mes yeux, et je suis en train de travailler sur un bouquin sur ce thème-là, qui sont à mes yeux les vertus cardinales de ce que doit être le monde de demain. À savoir un monde de simplicité. Je n'ai pas dit de facilité, ça fait 50 ans qu'on se trompe. On confond simplicité et facilité. Il n'y a rien de plus compliqué que la facilité. Non, je vous parle de la vraie simplicité. La simplicité qui est extrêmement difficile. N'importe qui peut faire compliqué. Donner un problème complexe à quelqu'un, il va le découper en 8000 sous-cas. Il va résoudre chacun des sous-cas en mettant au moins 200 procédures. Vous allez avoir 10 mètres linéaires de dossiers totalement inutile, stérile et inapplicable. Par contre, une bonne solution à un problème complexe doit tenir en moins d'une page. Et si elle tient en moins d'une page, alors elle peut être expliquée à celui qui la mettra en œuvre et il pourra la mettre en œuvre immédiatement. Donc, notion de simplicité, mais c'est très difficile de faire simple. Il faut beaucoup de génie pour faire simple. J'ai un ami chinois qui est calligraphe. Vous savez que la calligraphie fait partie des arts considérés comme majeurs pour le taoïsme. Qui est calligraphe, disait, je s'appelle M. Cheng. Et M. Cheng m'avait un jour, au début que je le connaissais, invité à chez lui. Donc il m'a montré, expliqué comment on faisait de la calligraphie. Très bien. Et puis il me demande de choisir un idéogramme et un style et pour me faire une marque calligraphie pour moi. Et donc il s'installe, voilà, très bien, tous les choix sont faits, il prend son pinceau, il se concentre, 15 secondes, la calligraphie est parfaite, parfaite, centrée parfaitement, les déliés magnifiques, pas la moindre hésitation, pas le moindre petit défaut, rien, non, parfait, parfait. Écoutez bien ce qu'il me dit, il me dit, tu vois Marc, comme c'est simple. Oui, bon. Combien de temps j'ai mis pour le faire? Je crois 15 secondes. Il dit oui. Ben, pour faire ça en 15 secondes, il faut 30 ans de travail. C'est ça la simplicité. Hein? Donc, je pense que quand on parle de simplicité, il faut surtout bannir les mots que sont simplisme et simplification. C'est pas de ça dont on parle. On parle de la vraie simplicité. Frugalité, je ne vais pas vous faire un dessin.
quand on entre, comme c'est le cas de notre petite terre, quand on entre dans une logique de pénurie sur la grande majorité des ressources naturelles, il est quand même relativement suicidaire de ne pas comprendre que la frugalité est la clé de l'avenir. Me semble-t-il. Allez voir les assets de tous les pays, notamment les assets anglaises. Oui, je ne fais pas celle-là. Il faut que tu entendes un petit peu. Donc les assets ont toujours prôné, non pas l'austérité, non pas la mortification, mais la frugalité. Souvenez-vous de Diogène. Ce n'est Diogène, le fondateur des Cyniques, qui vivait dans son tonneau. Eh bien, un jour, il voit un gosse qui va à la fontaine et qui boit dans ses mains. Et puis il regarde, il a une écuelle, il dit dans le fond, ça ne sert à rien, et il l'a acheté. Eh bien, je crois que là, la frugalité, ce n'est pas nécessairement aller à ces extrêmes-là. Mais ça, en tout cas, dans tout ce que nous faisons, de réfléchir à y a-t-il moyen de le faire plus simplement ? Y a-t-il moyen de le faire plus frugalement ? Est-ce que je vais faire ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Allez voir vos caves, vos greniers, vos placards. Je pense que vous avez 2 ou 3 tonnes de choses complètement inutiles dedans. Eh bien, ça, c'est l'anti-frugalité. Et l'élégance. L'élégance, c'est quelque chose qui, moi, me paraît être un principe éthique magnifique. Et je pense d'ailleurs que nous allons de plus en plus vers cette idée que éthique et esthétique, c'est la même chose. Que quelque chose de laid est mal, et quelque chose de mal est toujours laid. Et donc, je crois que la notion d'élégance est intéressante. Et elle est intéressante parce qu'elle est riche. On dit d'une femme qu'elle est élégante. On dit probablement aussi d'un homme qu'il est élégant, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. On dit d'une femme qu'elle est élégante, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire qu'elle peut se magnifier avec très peu de choses. Se magnifier avec quelque chose qui a l'air négligé, mais qui est un négligé très sophistiqué. Et là, on est dans le grand art. Quand on dit cette solution mathématique ou cette démonstration mathématique est élégante, que dit-on ? La même chose. On dit que le mathématicien qui a conçu cette démonstration est allé à l'essentiel sans détour, et a fait un trait d'une simplicité, d'une clarté, d'une beauté biblique. Et quand on dit une théorie physique est élégante, on dit la même chose. On dit que les concepts sont clairs, peu nombreux, et que leur articulation prend des formes et des structures parfaitement reconnaissables et parfaitement utilisables. Donc cette notion d'élégance, et si on l'appliquait 3 secondes à l'entreprise, qu'est-ce que ça pourrait être une entreprise élégante qui cultive l'élégance ? Élégance dans ses relations ? À l'intérieur, à l'extérieur, élégance dans ses structures, élégance dans son geste, dans ses comportements. Imaginez ça 3 secondes, ce ne serait pas le paradis ? On n'est pas loin. Hein ? Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est de voir des entreprises qui cultivent la simplicité, des entreprises qui cultivent la frugalité, des entreprises qui cultivent l'élégance. Imaginez que nous mettions ça, hein, non plus en termes de philosophie, mais en termes de programme d'action, ben vous redéfinissez complètement ce que sera l'entreprise de demain. Et enfin, dernière idée, et j'en resterai vraiment là, c'est de cultiver la spontanéité. C'est un concept que les taoïstes adorent. Sois toi-même, triche pas avec toi-même. Peu importe ce que tu es, sois-le à fond, sois-le parfaitement. Va au bout de tes talents. Arrête de vouloir te conformer à des modèles. Il n'y a pas de modèle. Arrête de regarder à la télévision pour voir à qui tu pourrais ressembler. De toute façon, ceux que tu vois à la télévision, quand tu les vois de non maquillés et non habillés, c'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas se tromper là. Hein? Donc, il faut bien cultiver ce que l'on est en soi, ce que l'on est pour soi. Vous voyez le côté asocial de la chose ? Hein? Mais le côté asocial qui n'est pas négatif, qui n'est pas agressif, qui n'est pas antisocial. Et le principe finalement qu'il y a derrière tout ça est extrêmement simple. C'est comment veux-tu donner du bonheur autour de toi si tu n'es pas d'abord heureux avec toi-même ? Comment veux-tu partager la joie à l'extérieur si tu n'es pas joyeux avec toi-même ? Alors commence par savoir exactement ce que tu es et deviens-le. Et là on retrouve mon papa, Nietzsche, qui disait « deviens ce que tu es ». En fait, c'est pas vrai, c'est saint Augustin qui a dit ça, mais j'aime pas saint Augustin, je préfère dire que c'est Nietzsche.
Voilà. Donc, je crois que la spontanéité, c'est quelque chose d'essentiel. Eh bien, appliquons à l'entreprise. Vous, ceux d'entre vous qui sont managers, vous passez votre vie à jouer des rôles. Vous passez votre vie à vous tuer le ménage, à n'être pas vous-même, à faire semblant d'être le plus conforme possible à un modèle qu'on a créé arbitrairement de toutes pièces, où il faut absolument qu'un manager soit un jeune cadre dynamique avec une cravate rouge, un costume bleu, avec tel comportement, tel type de parole. Il faut qu'il y ait au moins 3 mots anglais par phrase pour que ça se fasse sérieux. Il faut qu'il ait toujours des chiffres, parce qu'il est évident qu'il faut tout quantifier, alors que l'essentiel, vous le savez, est qualitatif. Et donc, je pense que ces modèles-là, il faut les évacuer. Il faut les évacuer, il ne faut plus se conformer à quoi que ce soit, donc anti-conformisme. Il ne faut plus se conformer à aucun modèle que ce soit, il faut vivre ce que l'on est. Et ça, je terminerai là-dessus. C'est que la plus belle pensée, je pense, de Lao Tzu et de Chuang Tzu, parce que c'est Chuang Tzu qui a écrit ça, c'est de dire cette chose fabuleuse. La vérité ne se dit pas, elle se vit, et ça suffit. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Je ne vais pas dire que tu es élégant, mais je veux dire que ton discours m'a paru en tout cas très élégant. Je te remercie parce que vraiment tu as dit des choses très très profondes qui remettent en cause le management de façon très simple. Donc un tout grand merci. Alors je voudrais vous demander, Luc, la première question.
Oui, vous avez dit que vous n'aimez pas Saint-Augustin. Lui qui disait « aime et fais ce que tu veux ». Pourquoi ?
Pourquoi j'aime pas Saint-Augustin ? Oui.
Voilà. Peut-être à cause de
sa mère aussi. Pourquoi j'aime pas Saint-Augustin ? Parce que je pense que Augustin, par son platonicisme et Thomas d'Aquin, par son aristotélisme, ont complètement perverti la chrétienté. Et je pense que le côté oriental du christianisme a été perdu à cause d'eux. Et que ce sont des gens qui, encore une fois, se sont définis, et c'est surtout vrai pour Augustin, et derrière lui, Irénée et autres, se sont définis contre le paganisme, contre les hérésies, contre. Ce sont des gens qui ont passé leur vie à être contre. Et ça, c'est la chose qui m'ennuie un peu chez eux, cela dit. Il y a des passages fabuleux dans la Cité de Dieu. Il y a notamment un passage que j'adore, moi, c'est cette question qu'à un moment donné... Non, ce n'est pas une question. C'est Augustin qui écrit ceci, de mémoire. Hein, donc, écrit ceci, il dit « Tant qu'on ne me demande pas ce qu'il est, je sais ce qu'est le temps. Dès qu'on me le demande, je ne le sais plus. » Et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup frappé, « in illo tempore ». Voilà.
Notre question. Comment la compassion s'intègre-t-elle, si elle s'intègre dans le taoïsme? Un jour, j'étais en Chine et notre bus fait une petite route de montagne et la route est barrée parce qu'un bus de Chinois était tombé dans le ravin. Il y avait d'autres Chinois qui attendaient aussi et nous avons été complètement choqués parce que les Chinois qui regardaient leurs collègues tomber dans le ravin se marraient. Je trouvais ça vraiment marrant, très très drôle. Et nous étions horrifiés et nous avions un tas de sentiments, de compassion devant les pauvres gens qui étaient tombés dans le ravin. Alors, comment interpréter autrement que par le fait que nous ne comprenons pas vraiment ce peuple?
Parce que, tu sais, il faut peut-être pas forcément lire jusqu'en Chine pour ça, il faut lire la généalogie de la morale de Nietzsche. C'est opposer la philosophie de la pitié, ou de la compassion, si vous préférez, à la philosophie de la réalité. Et donc, c'est clair que la notion de compassion n'existe pas dans la pensée taoïste. La pitié de l'autre n'existe pas. Seul le Tao apporte. C'est les parcelles de Tao que les autres humains sont, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucune adulation du sujet. L'homme ne compte pas. C'est un anti-humanisme absolu. Ça veut simplement dire que ceci, que
l'homme n'est pas la mesure de toute chose, c'est le Tao qui est la mesure de toute chose. Et que l'homme ne vaut rien par lui-même. Il ne vaut que par ce qu'il fait. Lorsqu'il le fait adéquatement et en perfection, en conformité avec le Tao. Donc on est bien dans... C'est l'anti-christianisme absolu. Si c'est ça que vous voulez savoir, la réponse est oui. Moi, ça ne me dérange pas, mais d'autres, peut-être, ça les dérangera. Il y a clairement là quelque chose qui est incompréhensible pour un occidental, point, parce que l'Occident est égal à la chrétienté quelque part, du point de vue éthique. Et donc ça, je crois que c'est vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental. Ce qui est important, c'est que le monde s'accomplisse, pas que tel individu s'accomplisse. Être individualiste en Chine, c'est grossier. Penser à soi, c'est grossier, c'est inacceptable. L'individu ne compte pas. L'individu, il est partie prenante de quelque chose qui doit le dépasser. S'il se place en avant, c'est ça le mal. C'est ça l'inacceptable. Voilà. Donc je pense qu'on est bien là dans...
Mais comment faire alors le lien avec l'interdépendance dont vous parlez, avec tout est lié à tout?
Ah mais c'est, attendons-nous bien, la non-pitié ne signifie pas la non-dépendance. Vous confondez le sentiment et la réalité. Le fait que la notion de compassion n'existe pas, que la notion de pitié n'existe pas, ne signifie nullement qu'il y a une haine absolue de tous contre tous. Il n'y a pas de haine.
Donc le but n'est pas de rendre l'homme heureux.
Le but n'est pas de rendre l'homme heureux. Et là, encore une fois, on est très nietzschéen. Nietzsche avait une très belle phrase qui disait que m'importe le bonheur, seul mon œuvre compte. Et on est bien dans cette même perspective de la démarche et non pas dans le sujet. Et ça, je sais que c'est une énorme difficulté en général qui est vécue par les Occidentaux qui abordent la philosophie chinoise. C'est pas du mépris, c'est indifférence totale pour le sujet. Tes petits problèmes égotiques n'intéressent personne. Voilà.
Si on se met dans la perspective d'une entreprise, comment est-ce qu'on peut être d'accord avec le fait qu'il faut aller dans le sens du courant? Parce que bien souvent, pour réussir à faire travailler une entreprise ou réussir quelque chose dans une entreprise, il faut aller à contre-courant.
Oui. C'est peut-être qu'il faut reprendre avec plus de soin la notion de contre-courant ou dans le courant. Je vous ai dit qu'il faut d'abord commencer par accepter le courant pour en profiter et puis aller où vous voulez. Donc c'est pas se battre contre... Il y a une très belle image par rapport à cela qui est fortement utilisée et qui, je crois, est un morceau de réponse à votre question. C'est l'image de la pierre et de l'eau, le ruisseau. Alors la pierre, elle veut se battre contre le ruisseau. Elle veut résister au ruisseau. Et plus elle résiste, plus le ruisseau l'use, et plus vite elle devient sable et disparaît. Donc le but du jeu n'est pas de résister au Tao. Le but du jeu, c'est de s'y inscrire. Et une fois qu'on s'y inscrit, toutes les portes s'ouvrent vers toutes les libertés, en ce compris l'originalité qui va faire de votre entreprise quelque chose qui va se différencier, qui va pouvoir gagner des parts de marché, avoir des avantages compétitifs et que sais-je. Hein? Donc voilà, être original, c'est pas être contre. C'est avec, et c'est être dedans, mais autrement.
Mais ça implique probablement de distinguer des modes passagères du mouvement du Tao, en tout cas.
Et c'est ça qui est étonnant, c'est que toute cette vision taoïste, elle est tout le temps cosmologique. On ne parle pas de l'être humain, on ne parle pas de la Terre, on parle du tout. Et ça, c'est étonnant, parce qu'on n'est pas trop habitué, nous qui sommes soi-disant des êtres abstraits, on n'est pas du tout habitué à penser cosmique dans notre tête à longueur de journée. On pense humain, on pense moi, hein, mais on ne pense pas cosmique. Et donc ça, c'est intéressant de voir que ces Chinois, ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous, sont habités vraiment par cette notion d'harmonie cosmique.
Donc ça correspond plus ou moins à ce qu'on connaît chez nous par les approches plutôt systémiques, vraiment globales.
Oui, bien sûr.
Approches holistiques.
Bien sûr.
Intégratives.
Bien sûr.
Bien sûr, ça c'est mon métier, ça c'est la physique de la complexité, c'est celle-là. Hein. Et donc effectivement, pour un Chinois, il ne comprend pas l'analytique. Il est par essence systémique. Ne serait-ce qu'au niveau de la langue. Nos langues à nous, nos langues indo-européennes, sont des langues qui sont des langues analytiques. Hein.
Un texte c'est des phrases c'est des propositions, propositions c'est des mots, les mots c'est des lettres, des syllabes, des lettres. Hein, donc on a bien une hiérarchie analytique. Un texte chinois, c'est pas comme ça. Un texte chinois, c'est des idéogrammes, déjà qui ne sont pas décomposables, hein, qui portent le sens qu'ils ont, point. Et quand on dit le sens qu'ils ont, c'est les sens qu'ils ont. Parce qu'un idéogramme va prendre tel ou tel sens en fonction des idéogrammes connexes avec lesquels il est en relation systémique. Nous y voilà. Hein. Donc très clairement, le langage chinois est un langage qui est non analytique, qui est systémique. Donc eux ont beaucoup plus facile que nous à aborder les problèmes de dholisme, les problèmes de systémie, les problèmes de physique complexe, parce qu'ils sont tombés dedans et dans le petit, tout simplement.
Oui, et je dirais pas seulement en Chine, parce que si on regarde par exemple le bouddhisme, les notions d'interrelation et les notions d'impermanence sont également des notions complètement fondamentales.
Tout à fait. Tout à fait.
Hein, on a l'impression que c'est tout l'Orient qui a cette pensée, cette manière.
Oui, très probablement. Très probablement, oui. Regardez en Inde, vous avez manifestement, vous connaissez, mais si vous pensez à Shankara, qui est le fondateur, enfin pas le fondateur, mais qui est un des grands théoriciens du Vedanta Advaita, donc la non-dualité, il a théorisé cette notion que tout est dans tout réciproquement et que toute forme d'altérité est un mensonge. Et donc, effectivement, on est là dans un regard très, très oriental de connexion avec et non par contre.
Voilà. Et le corollaire de ça, et puis après j'arrête, c'est qu'effectivement, depuis Platon, on a l'impression qu'on est allé, surtout à travers la science, vers ce qu'on appelle le réductionnisme, c'est-à-dire démonter le tout en ses parties constituantes, en espérant trouver peut-être l'essence, on a pensé trouver l'essence des choses en démontant tout. Et cette approche réductionniste, je dirais, est allée jusqu'à l'atome et la physique des particules. Au niveau du vivant, on est allé jusqu'aux protéines constitutives, l'ADN, etc. Ce sont des grandes découvertes, incontestablement. Mais maintenant qu'on les connaît, je pense effectivement que la science va plutôt dans l'autre sens, essayer d'intégrer
En tout cas, les sciences physiques, je ne suis pas obligé de parler de ça ici, mais les sciences physiques, oui. Plus on monte dans la complexité, plus les irréductibles du réductionnisme s'affirment. Quand on va chez les biologistes et chez les médecins, là on a affaire à des analytiques pur jus qui ne veulent toujours pas comprendre que d'autres approches sont possibles. Alors quand on va dans les sciences cognitives ou quand on va chez les neurobiologistes, c'est encore pire. Quoi. Ils sont... Bon, allez, je vous laisse le bénéfice du doute, mais moi ce que j'ai rencontré en tout cas me pose bien des soucis. Je crois qu'il y avait ce monsieur là qui demandait la parole depuis tout à l'heure.
Oui, vous avez cité Nietzsche à plusieurs reprises et je sais à quel point c'est un penseur qui est important.
Parle plus fort, Rodolphe, si tu veux bien. Lève-toi, vas-y.
Vous avez cité
Rodolphe, qui est le fondateur de philosophie et management, je vous le signale.
Mais qui est remplacé avantageusement par Rodolphe. Vous avez cité, tu as cité à plusieurs reprises Nietzsche. Et je sais à quel point c'est un penseur important pour toi. Et il y a quelques années, tu écrivais encore des articles en proposant une vue très nietzschienne du management, l'approche nietzschienne du management. Alors, je vois que Nietzsche et le Tao ont tous les deux la même vertu à tes yeux, c'est de ne pas être platonicien, mais ils sont quand même assez différents les uns des autres. Et entre, il me semble qu'entre la volonté de puissance et le Tao, il y a quand même des espaces. Et donc ma question serait de voir dans quelle mesure un management qui serait inspiré par des idées nietzschiennes, un management inspiré par le Tao tel que tu l'as exposé, sont complémentaires, compatibles, irréductibles.
Il y a plein de points de convergence entre les deux, mais il y a aussi évidemment des divergences colossales entre les deux. Nietzsche est un homme du combat, c'est un homme de la lutte, c'est le dépassement de l'homme vers le surhomme, vers le surhumain. Hein. Et là, on est bien tous d'accord qu'il ne faut pas accepter les récupérations qu'en ont fait certains. Hein. C'est pas le Übermensch nazi, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc voilà, il n'y a pas du tout des idées comme celle-là dans le taoïsme. Nietzsche est un homme, disais-je, de combat. Son combat est un combat anti-chrétien fondamental. Hein. Il signait ses dernières lettres au bord de la folie. Il les signait en parlant de lui, lors des crises. Donc, il y a là quelque chose qu'un Chinois ne comprendrait pas. Mais, parce qu'un Chinois ne s'intéresse pas aux convictions de quelqu'un d'autre. Il les accepte par essence. Voilà, tu penses ce que tu veux, moi je pense ce que je veux. Et l'important, c'est qu'on puisse fonctionner ensemble. Ce n'est pas du tout le cas d'un Nietzsche, qui est beaucoup plus dans le combat, qui est beaucoup plus dans l'opposition. Je crois que s'il fallait trouver un modèle pour l'entreprise de demain, moi je serais plus enclin à penser qu'il est dans le taoïsme que dans Nietzsche. Par contre, s'il fallait donner du sens, un nouveau sens à l'entreprise humaine, ou à l'entreprise, ou à l'humanité, là il faudrait probablement être plus nietzschéen que taoïste.
L'évolution, ça.
Oui.
Pratiquement, quand vous intervenez en entreprise, vous passez un mois à les convaincre et à faire de la philosophie avec eux. Je veux dire, on a quand même là un discours qui va à l'encontre de ce que les managers sont souvent capables d'entendre. Concrètement, ça se...
Ben, concrètement, tout à fait concrètement, je dois rentrer un petit peu mieux dans ma pratique de l'entreprise à moi. Moi, j'ai fait 15 ans de management de crise avant de me retirer de ce métier-là pour faire de la prospective. Enfin, je parle de moi, mais pas, c'est pas parce que je suis intéressant, c'est parce que j'essaie de vous situer à quel niveau se place mon action. Hein. Donc, quand on fait du management de crise, on vous donne la direction d'une entreprise avec une mission. Et dans ce cas-là, vous avez carte blanche, et ça marchait très bien d'appliquer ce genre de choses-là. Hein. Et je n'ai pas besoin d'expliquer pendant 50 millions d'années, vu que c'était moi le chef. C'est l'avantage. Hein. Par contre, quand on fait de la prospective, c'est quoi la différence des deux? Ben, c'est que, pour faire simple, encore une fois, le management de crise, c'est du curatif. La prospective, c'est faire du préventif. Donc c'est les mêmes modèles, c'est les mêmes méthodes, mais on inverse, ça fait du temps, quoi, c'est autrement dit. Donc là, maintenant, c'est plus moi le chef. C'est les gens qui me payent qui sont les chefs. Et ça pose des problèmes de pédagogie, c'est clair. Et très, très... Non, j'allais dire très curieusement, c'est pas du tout curieux. Vous allez, à mon avis, trouver ça tout à fait évident. C'est que ça, les gens de PME comprennent infiniment plus vite et plus profondément que les dinosaures des grosses entreprises. On s'est compris. Du CAC 40. Donc voilà. Moi, j'y vais plus. C'est peine perdue. Dans les grosses boîtes. Par contre, dans les PME, là, il y a des succès remarquables. Mais il ne faut pas arriver avec tout l'intérêt tout de suite, hein, ça ne sert à rien. Il faut voir le plus vite possible dans telle entreprise quels sont les points où on peut injecter le bon mot avec le bon outil. Quoi. Et alors, ou bien ils le rejettent, ce qui arrive parfois, ou bien ils l'accaparent très très vite, mais alors ça donne des résultats très rapides. On va pas parler de ce métier, mais... Merci.
L'ouverture des grosses boîtes à une autre vision de l'entreprise, est-ce que ce que vous dites, c'est peine perdue, ou est-ce qu'ils sont simplement un peu en retard? Est-ce que ça va arriver?
Ben écoutez, il y a aujourd'hui les grandes entreprises que je connais un peu, on peut, avec beaucoup trop de simplicité, vous voyez, le binaire qui revient à plein pot, on peut les classer en deux grandes familles, si vous voulez. Il y a ceux qui se crispent et retournent à des visions pyramidales hiérarchiques extrêmement fortes et où il y a de plus en plus de serrage de boulons avec de moins en moins de gens qui ont le pouvoir de prendre des décisions.
C'est ce qui s'est passé avec la crise récente.
Il y a les deux qui se passent avec la crise. Il y a ceux qui se crispent et au contraire ceux qui comprennent que ces structures-là sont beaucoup trop lourdes, beaucoup trop lentes, beaucoup trop rigides pour faire face à la turbulence alentour et qui se transforment progressivement en des réseaux de business units qui sont des petites entités, qui sont des PME en fait.
ça ne s'appelle pas comme ça, mais à ce moment-là, on n'est plus dans un management charismatique, dans des projets locaux, dans du réseau plutôt que dans la hiérarchie. Et les grosses entreprises qui évoluent vers ça font des cartons pour l'instant. Donc voilà, c'est là où se trouve l'enjeu.
On a des exemples ?
De quoi ?
D'une entreprise qui actuellement a opté pour ça et fait un carton.
Oui, Vinci par exemple, Vinci, enfin, c'est celle pour laquelle j'ai travaillé le plus rapide, le plus récemment. C'est une entreprise qui s'est complètement organisée comme ça et qui a vraiment créé des entités de taille humaine qui sont des PME avec une adoration dans leur métier. Fais bien ton travail, là, le profit vient là, enfin ce genre de choses. Et ça marche très très bien. Hein.
Merci.
De rien. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont un passé militaire, mais on connaît bien cette distinction comportementale dans les armées. D'un côté, il y a l'armée pyramidale, hiérarchique, sur les champs de bataille, lourd, lent, machin. Et puis, il y a les unités d'élite et les unités de commando qui ne fonctionnent pas du tout dans la même logique.
Hein. Oui. Dans la rencontre entre la culture chinoise et la culture occidentale, est-ce que vous avez des exemples où la culture chinoise déteint sur la culture occidentale, ou que la culture occidentale prend quelque chose de la culture chinoise ?
Ben écoutez, votre question est tout à fait impertinente, donc elle est pertinente. D'ailleurs, cette question, il y a quelque chose que je n'ai pas dit et que j'aurais dû dire. À savoir que la philosophie chinoise dont je vous parle, c'est la philosophie chinoise ancienne. Or, il faut savoir que le XXe siècle a été catastrophique pour la culture chinoise et que le plus catastrophique du catastrophique, c'était la révolution culturelle de Mao Zedong qui a en fait éliminé l'immense majorité des intellectuels et des porteurs de sagesse qui véhiculaient encore cette tradition de manière relativement vivante. Aujourd'hui, elle remet un peu et on voit effectivement quelque chose qui est en train de revenir. Mais je dirais le mal est fait, d'une part, et d'autre part, l'occidentalisation d'un certain nombre de mentalités chinoises est faite aussi. Donc aujourd'hui, je vous avoue que je suis moi très perplexe par rapport à ça, dans la mesure où la Chine, d'abord la Chine, ça n'existe pas. La Chine, c'est je crois, une soixantaine d'ethnies différentes, c'est 200 ou 300 langues, c'est des régions qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, enfin, c'est une immense mosaïque. Et en plus de ça, le maoïsme a fait des dégâts épouvantables. Je prends un exemple qui va vous ramener à la notion de sujet. Une famille chinoise traditionnelle, c'est une famille où le père de famille a plusieurs épouses et des tas de concubines. Et donc, derrière ça, mais des tripotés d'enfants. Et l'idée, c'est de dire que les enfants, mais le plus vite possible, ils doivent apprendre à subvenir à leurs besoins. Et s'il y en a deux, trois qui meurent, ben mon Dieu, sur les 28, statistiquement, c'est pas bien grave. Donc on est bien là dans la non-compassion, dans le culte de l'enfant tel qu'on perçoit aujourd'hui ici en Europe, et c'est récent, pas du tout courant en Chine. Sauf que Mao Zedong a décrété la loi de l'enfant unique. Donc ça veut dire que normalement, il y a des accommodements avec le Seigneur, mais normalement, une famille ne peut avoir qu'un seul enfant. Et donc, ce qui veut dire que cette marmaille qu'on comptait plus, parce qu'il y en avait trop, qui se réduit à un seul individu, qui devient un prince. Donc, vous comprenez tout de suite la bifurcation qu'il y a en termes comportementaux entre le gamin qui faisait partie d'une marmaille et qui devait se débrouiller assez vite tout seul et qui se construisait tout seul par rapport au monde, par rapport aux autres, etc. Et cette espèce de sale gamin de merde qui est complètement couvé, qui est le centre du monde d'un nombrilisme effrayant, qui devient le chef d'entreprise de ces espèces de monstres chinois qui sont aujourd'hui en train de se développer à une vitesse grand V en Chine. Il est évident que ce gamin-là n'a rien de commun avec la sagesse traditionnelle chinoise. Alors, est-ce que nous, Européens, nous avons été astucieux au point d'aller chercher dans la sagesse chinoise des choses qui nous intéressent ? La réponse est oui. La réponse est oui. Je ne vous parle pas des inventions ramenées par Marco Polo, hein, la boussole, etc., tout le monde sait ça, mais je crois qu'au niveau conceptuel, dans tout ce qui concerne la philosophie, la spiritualité, une spiritualité sans Dieu, vous l'avez remarqué d'ailleurs, hein,
le mot Dieu n'a pas été prononcé une seule fois cet après-midi, répond relativement bien à les aspirations de nos contemporains occidentaux. On voit, par exemple, ce sondage français d'il y a 15 jours, je crois, que 60% des Français se qualifient de catholiques. Mais avec un petit problème, c'est qu'il y a une grosse majorité de ces 60% qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors, je ne sais pas bien comment on peut faire, mais par contre, ils sont à l'aspiration d'une grande spiritualité et voudraient avoir plus de contact avec les philosophies extrêmement orientales, qu'on va bien entendu mercantiliser, comme vous vous en doutez, et qu'on va rendre insipide, incolore et inodore et diluer dans la médiocrité ambiante. Mais c'est fort dommage. Mais n'empêche, ce lien existe. Et quelque part, il introduit des notions orientales dans la culture occidentale. Et je crois que là, il y a une espèce de convergence qui est pas mal, parce que souvent, on me demande, mais vous êtes en train de prôner le fait qu'on doit tous devenir chinois demain matin. Non, c'est pas ça du tout. Et surtout, chinois comme ils sont maintenant, j'ai pas du tout envie. Je suis plutôt en train de dire qu'il y a en Chine une relation au monde, une relation à la nature, une relation au cosmos, dont nous avons grandement besoin, et il y a une grande compréhension de la notion de complexité dont nous avons de plus en plus besoin aussi. Allons chercher ça, et en échange, donnons-leur des regards sur le projet, peut-être un peu plus, sur l'idée de compassion, peut-être, pour reprendre l'idée qui était envoyée tout à l'heure. Voilà, bon, moi je crois qu'il faut pas choisir son camp, il n'y a pas de camp.
Est-ce que ce n'est pas le taoïsme qui fonde au fond l'idée du temps? Parce que, au fond, si tout change tout le temps, si tout était immuable, le temps n'existerait pas.
Bien sûr. Oui, c'est clair que il y a des paradoxes extraordinaires. La notion du temps est cruciale. Et ne serait-ce que dans l'entreprise, au niveau le plus concret, nous passons notre vie à gérer des ressources dans le temps. C'est ça, gérer, c'est optimiser dans le temps. Donc, la notion du temps est tout à fait curieuse et tout à fait fondamentale. Alors, l'idée qu'on peut évidemment avoir très vite, c'est de voir, mais la relation que nous avons au temps est traduite par nos langages. Et nous, dans les langues indo-européennes, nous avons une relation au temps qui est très fort structurée en trois, qui est le passé, le présent et le futur. Regardez, toutes les conjugaisons de toutes les langues indo-européennes connaissent des temps du passé, des temps du présent, des temps du futur. Vous êtes OK avec ça? Eh bien, si vous allez voir maintenant les langues sémitiques, l'hébreu par exemple, cette distinction-là, cette tripartition du temps n'existe pas. Là, il y a une bipartition du temps, ce qui est accompli et ce qui ne l'est pas. Donc, il y a ce qui est accompli, c'est fini, et puis il y a ce qui est en cours. Mais vous sentez tout de suite qu'on n'a plus du tout la même relation au temps. Alors les Chinois là-dedans, c'est quoi la relation au temps à travers leur langue? Ah ben elle est nulle. Ça veut dire par là que les verbes, donc les idéogrammes verbaux, ne se conjuguent pas. Voilà, c'est l'action. Mais c'est très profond. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'action qui prime. C'est pas l'avant, après, le machin, non, le but, c'est non, c'est l'action. C'est l'écoulement. Donc le temps est absent de la conjugaison, mais omniprésent dans la pensée. Tout cool.
Sur ce tout cool, justement, tu as évoqué le fait que Lao Tzu, c'était au 6e siècle avant Jésus-Christ, tout comme Héraclite. Alors il y a des philosophes qui disent justement que Héraclite et Lao Tzu ont dit fondamentalement des choses similaires. D'autres le contestent. Est-ce que tu peux expliquer les éventuelles différences que tu verras entre les deux et quelles conséquences cela peut-il avoir pour nous en tant que managers?
Mais il y a des choses qui sont... D'abord, il faut savoir que Héraclite d'Éphèse, c'était quand même un pré-socratique fort atypique. Hein. Les autres pré-socratiques étaient beaucoup plus dans l'étaphysique de l'air avec Parménide, etc. Donc Héraclite était le seul à affirmer la métaphysique du devenir, qui avait fort inspiré Nietzsche, d'où le lien. Et Héraclite avait
des choses très très proches de la haute société. Hein, le pantaraïde, tout cool, bah, on est bien dans le Tao. Le fondement de toute la dynamique cosmique pour Héraclite, c'est la polémos, c'est la guerre. Hein. On n'est pas trop trop loin du yin et yang. Sauf que pour la polémos de Héraclite, c'est un vrai combat. C'est une binarité, c'est une dualité. Alors que le yin et yang, on l'a dit tout à l'heure, c'est une bipolarité, mais ce n'est pas la guerre. Alors, il y a chez Héraclite un côté, une réflexion politique qu'il y a beaucoup moins chez Lao Tzu. Héraclite, c'est un grec, hein, et un grec, c'est d'abord la police, enfin, police avec un S, la cité. Hein, ce qui n'est pas du tout le problème de Lao Tzu. Lao Tzu a une phrase. Enfin, une expression qui vient régulièrement au Tao Te Ching, c'est traite le peuple comme chien de paille. Alors, ça veut dire quoi, comme chien de paille? Les chiens de paille, c'est les trucs qu'on sortait à certaines fêtes, on s'amusait avec pendant la journée, le soir, on les boulait. On traite le peuple comme chien de paille. Pourquoi frémir un peu, hein? Là, on n'est pas du tout dans ce même registre chez Héraclite. Voilà. Puis c'est toujours extrêmement dangereux de faire des comparaisons trop poussées entre des gens qui s'expriment dans des langues qu'on ne comprend plus, avec un style, une compacité telle qu'on peut faire dire tout et son contraire à n'importe quel texte. Donc il faut être très très prudent par rapport à ça. Toi qui es un grand amateur de Marcel Conche, tu as traduit les deux, quoi, les fragments d'Héraclite et Lao Tzu. Et c'est pas un hasard s'il a traduit les deux, c'est pas un hasard s'il a travaillé les deux.
Tout à fait, et pour la petite histoire, Marcel Conche, donc, est un philosophe spécialiste des Socratiques, ne connaît absolument pas le chinois. Il a pris simplement son dictionnaire français-chinois, il a commencé à traduire en partant de l'hypothèse qu'effectivement, pour lui, Lao Tzu avait la même philosophie de base qu'Héraclite.
D'où sa traduction très
héraclitaine, mais qui est contestée effectivement, ouais, par des François Julien. Oui. Qui sont des
François Julien, il conteste tout par définition.
Ouais, d'accord, c'est autre
chose. Pour revenir à la traduction, donc pour les amateurs de Tintin, je signale que le lotus bleu maintenant est décrypté. Je l'ai trouvé à la foire du livre. Et donc voilà.
Il est quoi?
Décrypté. Donc, c'est-à-dire.
Les idéogrammes sont traduits, voilà, c'est ça.
Donc, tout ce qui est hiéroglyphes, enfin, les calligraphies, j'ai beaucoup d'explications par rapport à la manière dont Hergé écrit ce livre, avec l'aide de Chan, je pense, quand il est encore vivant, et une chinoise. Un français passionné qui a passé pas mal de temps à faire son enquête, donc voilà.
Le bleu qui est typiquement la vision confucéenne de la Chine de l'époque, hein. Donc les Chinois du lotus bleu sont des confucéens. Leur manière de fonctionner est typiquement confucéenne.
Mais il y a des messages intéressants qui sont passés par
ce chien. J'avoue que ce message, j'ai oublié l'idée de les regarder dans le
livre. Par exemple, des affiches déchirées. Donc il a des positions bien tranchées par rapport à ça. Donc c'est intéressant.
Ah bah tiens. Ouais.
Oui. En deux mots, Confucius et Tao, la différence?
Ben, c'est la relation au cosmos, si vous voulez. Lao Tzu, l'ordre est naturel. Et c'est l'homme qui, s'il est non naturel, est en défaut par rapport à l'ordre du Tao. Ok avec ça? Confucius, c'est un peu l'inverse. Confucius dit, l'ordre de la nature est une chose, l'ordre de la culture en est une autre. Et l'homme a pour mission de mettre de l'ordre dans la culture, dans sa culture, de mettre de l'ordre par la culture. Et donc là, il y a une hyper-organisation, une hyper-procéduralisation de la vie. C'est effrayant, quoi. La manière de s'adresser à l'empereur, il fallait passer par un certain nombre mais quand je dis un nombre certain d'intermédiaires, de plus en plus hiérarchiquement élevés, avec à chaque fois des modes d'expression, des habillements, des prosternations, des formulations qui étaient spécifiées une fois pour toutes. Donc on est dans tout le contraire de la spontanéité taoïste.
Mais par exemple, pour les fumeurs d'opium, ils devaient mettre une corde autour du cou. Et Hergé, délibérément, n'a pas mis cette corde autour du cou. C'est tous les petits détails qui sont expliqués dans ce livre, par exemple.
Qu'il y a encore des questions brûlantes. Parce que sinon, je vous propose de lever la séance maintenant. Oui, une dernière, la toute dernière, il y en a encore d'autres. Alors, sinon, on prend un verre. Oui, la dernière, alors.
Mais peut-être un point qui est assez perturbant pour l'entreprise, je reviens sur le sujet de ce soir, c'est le rejet par le taoïsme de la logique de l'objectif et du résultat. Oui. Donc j'essaye de m'imaginer ce que c'est une boîte taoïste, hein, ou qui fonctionnerait selon ces principes. Je m'imagine dans le comité de direction. Qu'est-ce qu'il y a sur la table, en fait? Parce que si je dois bazarder la logique objectif-résultat, il n'y a pas business plan, oui. Il n'y a pas de budget, oui. Il n'y a pas de plan stratégique, il n'y a pas de plan de projet. Donc il y a quoi? Il n'y a rien alors sur la table.
Exact.
Moi, je n'arrive pas à me représenter. Sincèrement, si à partir de demain, on me retire mon business plan, mes objectifs et mes trucs, moi je suis à poil dans mon.
Et vous nous invitez, c'est promis.
Moi je ne sais pas comment ça peut se matérialiser.
Bon, alors il faut toujours se méfier des caricatures, hein, le tout et le rien. Disons que ce qui est certain, c'est que les Chinois sont d'abord des commerçants et des artisans. Et donc, ils fonctionnent avec un culte de l'opportunité et de l'opportunisme. Donc, c'est de nouveau la même chose, intention-situation. L'intention, c'est de gagner, pour faire très très simple, très concret, hein, de gagner des sous grâce à l'art que je maîtrise et que je tiens de mes ancêtres. La situation, c'est là, maintenant, tout de suite, comment je peux l'utiliser pour gagner des sous. Donc là, on est bien dans quelque chose qui est tout sauf du business plan. Je cite un petit exemple intéressant. Je me retrouve un jour dans un resto, je ne sais plus où, avec deux sages chinois, appelez ça comme ça. Donc des gens qui sont dans des métiers, mais qui ont aussi une très grande culture et qui ont bien sûr étudier tous les grands classiques chinois, donc voilà, des intellectuels, c'est un chinois dans les affaires. Bon, et à la même table se trouvent trois chefs d'entreprise français qui sont régulièrement en Chine. Et l'objet de ce dîner que j'avais organisé n'a absolument rien à voir avec leur business en Chine ou quoi que ce soit, c'était dans un tout autre contexte, qui est, peu importe, ça n'a pas d'importance ici. Et la soirée se passe bien. Et le pinard n'est pas mauvais, et puis l'atmosphère se déride un peu, en tout cas du côté français, parce qu'un chinois, par définition de cet ordre-là, il ne perd jamais son sang-froid. Et les Français qui sentaient un peu tranquilles, disent, à un moment donné, abordent la question qui fait mal, quoi, en disant, nous, on travaille en Chine, on a quand même beaucoup de problèmes avec les Chinois. Ah bon, disent les deux autres. Oui. Et alors, il y en a un qui vient avec un point très précis. Et il dit, vous signez des tas de contrats et vous ne les respectez jamais. La question qui fait mal. Et le Chinois répond, ah, ça vous gêne? Oui, ça nous gêne. Ah oui, ça nous gêne. Pourquoi vous signez des contrats si ce n'est pas pour les respecter? Ah, ben on signe des contrats pour vous faire plaisir, ça a l'air de vous faire tellement plaisir d'avoir des contrats. Mais attendez, on rigole pas quand même. Des contrats, c'est sérieux, c'est des trucs sérieux, merde quoi. Hein? Et le Chinois, à ce moment-là, il a donné une explication que je trouvais, moi, extrêmement forte. Il m'a dit, est-ce que vous savez comment vous venez en Chine? Et vous savez comment nous, on fait des affaires en Chine depuis des milliers de générations. Quand vous venez en Chine, vous venez 3 jours, et le but du jeu, c'est de repartir avec une dizaine ou une trentaine de contrats signés. Nous, avant de collaborer avec quelqu'un, on travaille avec lui pendant une dizaine d'années pour voir. Point 1. Point 2. Vos contrats, c'est quelque part une tentative, et là on est dans le taoïsme, c'est une tentative de fixer les choses une fois pour toutes. Pour nous, ça n'a aucun sens. Un contrat, il est valable au moment où on le signe. 2 minutes après, il est déjà plus valable parce que le monde a changé. Donc autrement dit, on est dans une relation, et là je suis très sérieux, on est dans une relation basée sur la confiance à long terme et non pas dans le juridisme à court terme. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement dérangeant pour nous qui, depuis le droit romain, fonctionnons dans nos têtes avec un code pénal dans les ménages, quoi.
Là derrière, il y a une notion de rapport de force dans le contrat.
Aussi.
Et ça, c'est peut-être relativement absent du côté oriental.
Oui. Oui, parce qu'une négociation à la hussarde, comme on fait nous occidentaux et que les Américains font encore plus que terriblement, est absolument inacceptable pour un Chinois. Et donc quelqu'un qui l'agresse et qui quelque part l'oblige à perdre la guerre, c'est quelqu'un qui par définition est haïssable et donc il faut se venger. Point. Donc le contrat qu'on a signé est contraint et forcé. De toute façon, on va lui retourner. Voilà, on s'est compris.
Pour prolonger ce type de discussion qui est vraiment, à mon avis, au cœur de tout ce que tu as présenté, il y a bien sûr le livre de Marc. Je pense qu'aussi on peut suggérer celui de François Julien, le traité de l'efficacité. Il montre effectivement qu'un des fondements de la philosophie chinoise par rapport à l'efficacité, c'est très différent de l'aspect on définit des objectifs et puis on se bat contre vent et marée pour y arriver, mais qui est d'exploiter le potentiel de situation. C'est-à-dire, ayant une intention relativement précise, mais qui s'adapte aux circonstances et qui exploite au contraire, au maximum, ce qui va venir naturellement et en fait d'essayer de conformer ce que l'on veut à ce qui va de toute façon advenir naturellement. Voilà. Je propose qu'on en arrête là parce que j'imagine qu'il y en a certains qui doivent rentrer. Luc, tu as encore un dernier petit mot.
Voilà.
Les optimistes.
Voilà. Alors, mesdames, messieurs, vous ne savez peut-être pas que en même temps que nous sommes une soixantaine ici, à peu près 3 500 000 personnes, n'est-ce pas Christophe, ont regardé cette conférence en direct. C'est extraordinaire.
Non, c'est une erreur.
Non, mais c'est ça.
On aurait pu
alors,
regarder cette conférence.
C'est ça l'optimisme, c'est-à-dire que l'optimisme repose sur le partage de la connaissance. Voilà. Et c'est ce que nous faisons. Grâce à Christophe. Grâce aussi à Laurent, qui, vous ne le savez peut-être pas encore, mais il est l'optimiste du DICO, c'est-à-dire du développement de l'intelligence collective de l'optimistan. Voilà. Alors, professeur, je vais vous appeler, puisque vous pensez que l'esthétique a un rapport avec l'éthique. Je vais vous offrir un parfum à l'optimisme, et comme je vais faire attention de ne pas gaspiller mon énergie, je ne vais pas monter chercher des boutons de manchette, je vais vous offrir les miens. Ce sera donc vous serez super esthétique et donc il y a un rapport formidable avec l'éthique. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi je suis très très heureux de cette soirée. Alors, est-ce que tu as dit qu'il y a un terreau maintenant?
Il y a un terreau maintenant.
On va vous donner une feuille de papier, un bic et on fait une interro. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. C'était formidable.
Merci à tous.